Alors Saint-Gobain, tout d'abord, c'est où? Parce que c'est vrai que d'ici, depuis la Sarthe, ça fait un petit peu de chemin, mais ça se trouve où?
Alors, c'est dans les Hauts-de-France, les nouveaux noms qu'ils donnent aux régions. Donc, les Hauts-de-France sont composés de la région lilloise et de la région picarde, donc l'Aisne, l'Oise et la Somme. On est entre Laon et Saint-Quentin, donc c'est vraiment au nord de la France. Laon, pour ceux qui font un petit peu d'histoire, c'est l'ancienne capitale sous les Carolingiens. On est à 1h30 de Paris.
D'accord.
Voilà, en gros.
Et Saint-Gobain, donc c'est une ville, une grosse ville, petite ville, village?
On approche les 2500 habitants.
D'accord, donc ça reste quand même une ville de taille moyenne. Alors si on compare avec Sillé-le-Guillaume, on est à peu près à l'équivalent du même nombre d'habitants ici à Sillé ou à Saint-Gobain, autour de 2000, voilà, moins ça. De 3000 habitants, quoi.
C'est ça. Mais c'est une petite ville qui est quand même assez active. Par exemple, c'est l'exemple que je donne souvent, un jeune enfant commence sa maternelle et va jusqu'au collège. On a tout le cycle scolaire sur la ville.
Voilà.
On a un petit cinéma. Donc on est entre les deux, quoi.
D'accord.
Petite ville à la campagne, on va dire.
Et sur cette ville, est-ce qu'il y a de l'activité industrielle, par exemple? Parce que je ne connais pas du tout la région, donc c'est l'occasion
Il y avait une très très grande activité industrielle qui est quasiment historique, puisque Saint-Gobain, c'est vraiment le nom de la maison mère de la grande usine Saint-Gobain, qui est maintenant partie, je ne sais plus où, dans quel coin du monde.
Ouais.
Mais disons que la ville de Saint-Gobain a vu naître le Palais des Glaces, à Versailles, et puis la dernière réalisation qui a été faite ici, puisqu'on était spécialisé dans le verre, c'était les pyramides du Louvre, le verre de la pyramide du Louvre.
D'accord, donc c'est voilà. Parce que c'est un nom qui me disait quelque chose,
voilà.
Donc c'est un lien avec la fabrication du verre, la verrerie.
C'est la maison mère de Saint-Gobain,
voilà. D'accord,
créée au XIVe siècle.
Et donc l'activité par contre qui s'est éloignée de...
L'activité s'est arrêtée à fin des années 80. 90 à peu près, et du coup c'est une des choses aussi qui fait que Saint-Gobain, il y a beaucoup d'associations et tout, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui se disent, ben cette grande usine, pour l'instant on n'en fait pas grand chose.
Oui, parce que l'usine est toujours là, c'est ça?
Oui, bien sûr.
Enfin, les locaux, les murs?
Oui, il y a des locaux qui sont plus ou moins utilisés par les entreprises, mais c'est un potentiel énorme qui pourrait être beaucoup plus coopératif, on va dire.
Ouais.
Ajouter à cela que cette usine a été construite ici parce que nous sommes en forêt. À Saint-Gobain, nous sommes dans une région agricole. Donc vous voyez la région agricole avec les tracteurs qui...
Les grands champs à perte de vue, j'imagine.
Déserts,
oui.
Voilà, les déserts pollués qui sentent mauvais. Il y a un îlot, ce sont des plateaux calcaires qui sont surélevés. Donc on est à peu près à quelques mètres au-dessus de ces champs et nous avons une grande forêt. Donc du coup, on a un patrimoine industriel et une forêt à défendre.
D'accord, voilà. Donc on pourrait dire que la ville, c'est une ancienne ville industrielle, pour le coup, avec peut-être encore des choses, des formes d'organisation sociale héritées de ce passé.
Ah non, justement.
Non, justement, non.
Voilà, c'est-à-dire que pendant une époque, Saint-Gobain est connu, on va dire, dans le département pour avoir une certaine richesse d'associations, mais depuis deux municipalités, ou voire trois, enfin moi j'en ai vu trois, puisque j'habite à peu près... ça coïncide avec le moment où j'ai commencé à habiter à Saint-Gobain. Les associations se sont, je vais peut-être dire sclérosées, non, elles se sont renfermées sur des petits cercles parce qu'il n'y a aucune volonté de la mairie de les lier et de faire de la communication et de faire de la médiation entre les différentes associations.
Et est-ce que c'est justement ce constat de perte de vitesse de la vie associative, est-ce que c'est aussi pour ça que vous avez décidé de créer ce collectif citoyen?
Oui, tout à fait. Alors, perte de vie associative, justement, c'est là aussi où est le paradoxe, c'est que non, c'est que les gens ont toujours envie d'avoir autant d'associations, que ce soit pour la défense de la forêt, des associations sur, par exemple, le sel gobanais, les AMAP, toutes les choses qui sont sur de l'ordre de la solidarité et du bien vivre ensemble, elles résistent, mais justement, l'envie, c'était que la mairie s'engage pour traiter déjà toutes les associations de façon égalitaire.
Ouais.
Et puis qu'elle fasse la communication, qu'elle aide les associations à exister. Et puis que ça fasse du lien social entre les gens, quoi.
Alors justement, ce collectif citoyen Agora, c'est pas une association à proprement parler. Vous faites pas du sport, c'est pas une association culturelle, c'est pas une association sportive.
Il faut préciser que... c'est un collectif d'habitants, mais il y a des habitants qui font partie d'associations.
Ouais.
Alors, pourquoi j'insiste là-dessus? C'est parce que, par exemple, si notre collectif veut une salle pour réunir les gens de la ville pour commencer à parler de notre programme, on ne peut pas l'avoir. Il faut être association pour avoir le droit de demander une salle à la mairie. Donc, pour l'instant, on est en collectif et on va voir, selon les réponses de la mairie, s'il faut qu'on passe en support associatif.
Alors, le collectif citoyen Agora, n'a pas pour vocation à animer, je sais pas, des spectacles, à proposer du sport, à proposer de la culture, mais c'est plutôt une réflexion sur comment un citoyen dans une ville ou dans un village peut s'emparer de la, bah, de la chose publique, de la
C'est
traduction
ça.
française de la res publica, la République,
Voilà.
comment chacun peut s'engager sur des questions qui les touchent de très près, parce qu'on voit qu'en France, quand même, lorsqu'on regarde les élections, les scores des élections, les élections municipales sont très très, je veux dire, sont très très suivies par les gens. Il y a très peu d'abstention au moment des élections municipales, donc c'est quelque chose qui a un très grand intérêt pour les gens.
Alors, là, nous, ce qu'on demande en tant que collectif, ce qu'on propose aux habitants, c'est même plus que de participer à l'émancipation des associations, c'est même carrément prendre le pouvoir, en fait. Puisque, on donnerait, dans notre idée, la municipalité aux habitants.
Ouais. Donc c'est assez révolutionnaire, ça, comme idée, pour le coup.
Alors, révolutionnaire, je ne sais pas si c'est le mot, mais il y a un exemple en France, c'est la ville de Saillans,
Oui.
qui a donc fait comme nous un collectif. Enfin, c'est d'ailleurs même eux qui ont propagé un petit peu l'idée maintenant aujourd'hui sur tout le territoire français. L'intervenant de Saillant, qui est M. Tristan Russie, dont on l'a fait venir à Saint-Gobain. Les habitants ont découvert donc comment une ville dans la Drôme a renversé un maire qui prenait des décisions pour tout le monde sans concertation. Et du coup, ça nous a donné envie. Et de là est né le collectif. Et là, au jour d'aujourd'hui, on est presque prêt pour l'échéance qui arrive dans 18 mois, c'est-à-dire les municipales.
Oui. Alors, vous parliez, enfin, tu parlais du mot que tu as dit de sortie, concertation. Est-ce que le problème aujourd'hui, est-ce que si on crée une liste, c'est justement parce qu'on a remarqué qu'il y aurait dans certaines villes, certains villages, un manque de concertation, justement?
Alors, c'est surtout dans le principe. Il faut voir que la démocratie, c'est une étiquette aujourd'hui qu'on donne, mais qu'en vrai, la démocratie, c'est un principe. C'est-à-dire que la démocratie n'existe que quand on la fait. C'est-à-dire que chaque personne a le droit de regard sur les décisions qui sont prises par les dirigeants. Et nous, c'est exactement ce qu'on veut. Nos habitants, on leur propose d'écrire le programme de la commune. Ce sont les habitants qui vont écrire le programme de la commune. Et ce sont les habitants qui choisiront parmi eux les candidats de la future liste.
Alors, en préparant cette émission tous les deux, tu avais évoqué au téléphone donc les types de démocratie que, justement, on parle de démocratie, les types de démocratie qui existaient, représentatives, directes ou participatives. Est-ce que tu peux
C'est
nous
ça.
en dire un petit peu plus sur ces formes de
Alors,
démocratie?
eh ben, par exemple, la démocratie représentative, c'est celle dans laquelle nous sommes. Donc, tout de suite, quand je dis celle que nous sommes, dans laquelle nous sommes, on voit bien que nous sommes dans une situation qui est pas viable,
La
qui n'est plus viable.
démocratie représentative, c'est qu'on délègue un pouvoir pour être
Voilà, ce sont
représenté
des élus.
par
Voilà,
quelque
ce sont
chose,
des
oui.
élus qui sont élus au suffrage universel et qui prennent ensuite les décisions pour le peuple. Mais on s'aperçoit que c'est un système pyramidal, c'est-à-dire qu'on a un chef qui, selon ses humeurs ou selon sa bienveillance, décide pour l'ensemble de ses habitants. Et on voit ce que ça donne. Il n'y a
Alors,
pas
c'est
d'égalité.
pas forcément le cas partout non plus. Il faut pas non plus généraliser peut-être les choses. Il y a peut-être aussi des communes en France où les élus essaient ou tentent malgré tout
Alors,
de réunir
voilà.
les citoyens de temps en temps pour des questions qui touchent leur vie de la commune. C'est pas non plus une.
Très bonne question, parce que ça me permet de faire la transition sur la démocratie directe et participative, parce que justement, à l'échelon local, il y a des élus qui ont décidé de sortir de ce rôle de personnes providentielles qui savaient tout, pour faire rentrer les habitants au conseil municipal, ou au moins pour avoir des concertations. Alors, par exemple, la démocratie directe, c'est le référendum. La démocratie directe, c'est, je le dirais, une sorte d'héritage des idées de l'anarchisme, un petit peu. Donc on a vu aussi que c'était pas viable non plus, puisque y a eu une mairie dans notre région qui a été prise par les anarchistes, on va dire, mais ça n'a pas marché non plus. La démocratie participative, celle dont on parle, c'est un mixte de tout ça. C'est-à-dire que les habitants sont associés aux décisions et ils sont associés à la gouvernance. C'est-à-dire que chaque habitant a le pouvoir de dire son projet, son idée. On considère que chaque habitant est l'expert de là où il habite. et on lui donne le droit à la parole.
Donc en gros, sur un dossier, par exemple, soyons concrets, sur un dossier qui touche, je sais pas, l'école municipale ou la cantine scolaire, grosso modo, n'importe. L'idée, c'est que les gens puissent participer, donner leurs avis à l'occasion d'une réunion, voilà. Par exemple.
Alors, dans une réunion comme ça, on demandera l'avis en premier lieu aux enfants, aux parents, aux enseignants, enfin en même temps, aux directeurs d'école et à toutes les personnes qui font l'école de la commune.
Ok, je crois qu'on a bien compris la différence que tu fais. On va faire une pause musicale, mais là, en introduction, on a bien compris justement ces niveaux de démocratie participative, représentative ou directe. Je propose aux auditeurs de faire une première pause. On va retrouver dans mes petites fiches Marc Augeret, la complainte des Terre-Neuve sur Fréquencier.
Il faut que tout le monde mange ici-bas, c'est-il pas vrai, c'est-il pas vrai? Il faut que tout le monde mange ici-bas, c'est-il pas vrai, les Terre-Neuve. Nous autres, si l'on part sur le bateau, c'est-il pas vrai, c'est-il pas vrai? C'est pour faire manger nos petits-os, c'est-il pas vrai, les Terre-Neuve. Des fois, l'un de nous tombe dans la mer, c'est-il pas vrai, c'est-il pas vrai? Comme dans une grande gueule affamée, c'est-il pas vrai, les Terre-Neuve. Tant pis pour lui, le pauvre garçon, c'est-il pas vrai, c'est-il pas vrai? Faut qu'il mange aussi les poissons, c'est-il pas vrai, les Terre-Neuve. Les seuses qui restent après ça, c'est-il pas vrai, c'est-il pas vrai? Se mettent à pêcher ces poissons-là, c'est-il pas vrai, les Terre-Neuve. Se mettent à pêcher avec ardeur, c'est-il pas vrai, c'est-il pas vrai? C'est pour engraisser l'armateur, c'est-il pas vrai, les Terre-Neuve. C'est-il pas vrai, c'est-il pas vrai? Y'a que nos petits qui ne mangent pas, c'est-il pas vrai, les Terre-Neuve. Puisqu'on ne gagne pas sur le bateau, c'est-il pas vrai, c'est-il pas vrai? De quoi faire manger nos petits, c'est-il pas vrai, les Terre-Neuve. Alors qu'est-ce qu'on va foutre là-bas, c'est-il pas vrai, c'est-il pas vrai? Alors qu'est-ce qu'on va foutre là-bas, c'est-il pas vrai, les Terre-Neuve. On va pêcher avec notre cœur, c'est-il pas vrai, c'est-il pas vrai? C'est pour engraisser l'armateur, c'est-il pas vrai, les Terre-Neuve.
Marc Augeret sur Fréquencier, la complainte des Terre-Neuve. On retrouve Jean-Marc Chamblais sur cette émission Quartier Libre. Marc Chamblais, qui est membre du collectif Citoyen Agora de Saint-Gobain dans l'Aisne. Toujours en ligne ?
Toujours en ligne.
Donc on va repartir sur cette idée un petit peu curieuse de vouloir créer un collectif citoyen à l'occasion des élections municipales. C'est vrai qu'on entend très peu parler de ce genre de choses. Est-ce que tu peux nous rappeler l'objectif de ce collectif ?
Donc c'est de donner le pouvoir de décision aux habitants et de donner la possibilité aux habitants de décider selon leur propre expertise de ce qui est bon pour leur commune.
Alors donc ça veut dire concrètement que l'idée c'est aussi en 2020 de présenter, comme tu disais au début de l'émission, une liste citoyenne à des élections municipales.
Voilà. Alors la particularité de cette liste c'est qu'au début on dit aux gens qu'elle est sans programme. Et sans candidat.
Alors, est-ce que c'est pas déroutant, ça ?
Bah si, justement. Après, on leur explique que le programme, ce sont eux qui vont l'écrire, que nous, on va leur apporter des solutions de réunions et d'intelligence collective qui font qu'on aura des réunions où toutes les personnes pourront s'exprimer. Mmh. Et toutes les idées seront travaillées ensemble, par table, par commission municipale. Par exemple, il y aura la commission urbanisme, la commission loisirs et culture, la commission environnement, etc. Les gens iront s'inscrire sur ces tables selon leur choix, selon leurs envies, selon leur expertise. Et ils proposeront des idées, des orientations, voire des projets à la municipalité qui devra ensuite, pour ceux qui sont choisis, les exécuter.
Ouais.
En fait, les élus seront, si je me permets cette phrase, aux ordres des habitants.
Ouais. Alors, ça s'est mis en place comment ? Est-ce que c'est un jour, vous êtes retrouvé dans un café à 2-3 personnes et dire « Bon sang, mais c'est bien sûr, c'est une très bonne idée, on le fait ?»
Alors,
est-ce que c'est aussi simple que ça ?
Presque. Le déclencheur, ça a été vraiment la venue de Tristan, l'animateur qui vient donc de cette ville de Saillant, qui a réussi à faire une mairie citoyenne avec la démocratie participative. Et donc ce formateur tourne un petit peu partout aujourd'hui dans la France, il est très demandé, parce que là aujourd'hui il y a plus d'une centaine de listes en France, dont des très grandes villes, qui sont sur ce projet.
Ouais.
Donc quand on a écouté le témoignage de cette ville et de cet animateur, on s'est dit, banco, on y va. Sachant que nous, on donne les clés, nous sommes une sorte de porte-clés. La porte à ouvrir, c'est voilà, la mairie, c'est la porte de la mairie. Donc ouais. Après, est-ce que les habitants seront motivés pour venir écrire leur programme et venir prendre à bras-le-corps la direction de leur propre mairie pour le bien-être de tous ? Ça, c'est l'étoile à atteindre.
Oui. Est-ce que ce genre de proposition de dire on part d'une feuille blanche, est-ce que ça fait peur ou pas aux gens ?
Ça les motive beaucoup. Parce que,
ça les motive
alors,
beaucoup.
On a commencé notre communication, on va dire, par non pas de la communication, mais de l'écoute. C'est-à-dire qu'on a pris des systèmes de porteurs de parole. C'est-à-dire, ce sont des gens qui vont demander aux gens, poser des questions aux gens dans des événements festifs, des rencontres. Nous, on a fait le marché de Noël et puis une fête locale. Et on pose des questions aux habitants de Saint-Gobain, des questions très simples.
Une
première question qu'on a posée, c'était qu'est-ce qu'il y a de bien à Saint-Gobain, pour être positif ? Et qu'est-ce qu'on pourrait faire pour que ça soit mieux ?
Ouais.
Donc on a fait une approche très positive. On n'est pas venu en disant qu'est-ce qui va pas ? Parce qu'on voulait pas non plus être dans l'opposition brutale, on voulait être dans la proposition.
L'idée, c'est de co-construire quelque chose avec des gens.
Voilà. Et là, on a eu un succès fou. Les gens, la parole des gens s'est libérée devant ces porteurs de parole. On a tout noté sur des petits post-it, sur des petits papiers. Des fois, c'est sur des tableaux à craie, puisque ces événements, on essaie de les faire festifs. Donc, on se prépare, un animateur qui fait un porteur de parole, il faut qu'il ait le sourire, il s'entraîne un petit peu pour être avenant. C'est pas quelqu'un qui va démarcher avec un questionnaire, c'est quelqu'un qui va vraiment être attentif aux ressentis des gens et... les aborder vraiment, c'est un dialogue quoi, c'est un partage.
Oui, c'est pas un sondage.
Non, c'est pas un sondage, c'est vraiment un partage et c'est choisi dans des endroits précis. Des fêtes par exemple.
Donc
voilà,
si je comprends un petit peu les choses là, sur l'organisation de tout ça, le collectif est plutôt là pour proposer une sorte de d'environnement de travail, de réflexion, c'est ça ?
Tout à fait.
Avec des outils qui permettent justement la discussion, tu parlais des porteurs de parole, il existe d'autres comme méthode justement pour aller rencontrer des gens, pour leur poser des questions, comment on peut s'y prendre ?
Il y a ça, il y a aussi, vous savez, ce qu'on appelle les lecteurs publics, ça peut être aussi des formes empruntées au théâtre, ça peut être après un concert... C'est-à-dire qu'on essaye de trouver un endroit privilégié et un moment privilégié pour de libérer la parole des gens, dans un climat où ils se sentent en confiance. Et donc toujours garder un côté ludique, festif et amical.
Alors jusqu'à aujourd'hui, parce que vous avez commencé quand cette...
Presque un an jour pour jour, puisque le formateur est venu de mémoire en septembre l'année dernière... au cinéma de Saint-Gobain, une petite salle où il y avait plein de monde qui étaient présents, même des gens des communes environnantes, même des gens qui venaient d'Amiens, d'une ville un peu plus lointaine. Et le succès de cette rencontre il y a eu 2 jours de formation. Tristan nous a formés pendant 2 jours très dense avec une vingtaine d'habitants qui s'était inscrit à cette formation sur les outils d'intelligence collective. Donc ça, c'est comment faire une réunion sans s'ennuyer et trouver plein d'idées ensemble, taper dessus, en gros.
Oui, parce que c'est toujours difficile dans des réunions un petit peu de ce
et
style.
Bah, pas avec les outils qu'il nous a montrés, justement. Là, d'accord, on s'est dit, mais c'est magique. Alors, ces outils, on peut les retrouver dans... si vous tapez « Université du Nous », Nous, NOUS, sur Internet, vous avez des gens qui ont recensé tous les outils d'intelligence collective, tous les outils possibles et inimaginables pour faire une réunion avec 100, 200 personnes, ou 50, ou 10.
Ouais, sans que ça conduise à des drames.
Voilà. Avec donc des animateurs qui sont formés à ces réunions, qui vont distribuer la parole, c'est-à-dire qui vont vérifier que ceux qui parlent trop, ils vont moduler leurs propos, et ceux qui parlent jamais, auront leur temps d'expression.
Oui, voilà. Que chacun ait le
droit. On va même des fois jusqu'à minuter les temps de parole.
Que chacun ait le droit de s'exprimer, en fait, c'est ça.
Et puis que personne ne prenne l'ascendant sur l'autre. Ouais. On est vraiment sur un souci de parité et d'égalité totale.
Alors, en un an sur la commune de Saint-Gobain, vous avez rencontré combien de personnes à peu près ? Vous discutez de combien de personnes ? Est-ce que c'est toujours les mêmes ou est-ce qu'il y a des nouveaux à chaque fois qui arrivent ?
Au début, c'est un petit peu toujours les mêmes qui viennent dans un collectif comme ça, parce que ce sont des gens qui sont déjà engagés dans d'autres associations.
Oui, donc déjà qui ont des gens qui ont
habitude, qui ont certes une habitude de ce qu'est la solidarité et le bien vivre ensemble.
Ouais.
Il y a aussi des curieux. Donc nous, on est parti comme ça, d'un petit groupe de gens plus ou moins convaincus. Ensuite, en faisant nos petits exercices de rencontre avec les gens, on a eu des curieux. Après, étape suivante, on a fait un tractage dans toutes les boîtes aux lettres pour inviter les gens à un apéro-rencontre.
Mmh.
Donc tous les Gobanais maintenant sont au courant. Et on les a rencontrés autour d'un apéro participatif. Chacun a amené un petit truc à grignoter et à boire. Et on leur a expliqué ce qu'étaient les outils qu'on leur proposait.
D'accord.
Et là, on a eu beaucoup de gens qui sont venus. Et maintenant, les habitants en parlent entre eux.
Mmh.
Beaucoup. Donc là, nous sommes à quelques jours de notre prochaine plénière qu'on va faire avant la fin du mois. Et on a déjà de nouveaux inscrits et on sait maintenant que de bouche à oreille, les gens sont curieux.
Sont curieux, donc c'est quand même assez intéressant comme approche au niveau des habitants. Parce que l'image qu'on a souvent des gens, quand on est dans une association, on se dit, j'ai encore entendu ce week-end, le bénévolat, ça marche plus, les gens se sentent plus concernés, ils restent chez eux, ils restent enfermés, ils sont là que pour consommer. Puis en fait, d'après ce que tu me dis, c'est pas forcément si évident que ça, cette réflexion qu'on peut avoir par rapport à l'engagement aujourd'hui.
Je vais être un peu dur, mais c'est vrai qu'il y a des gens qui ont sombré dans une profonde dépression et qui peuvent penser ça, c'est vrai. Et c'est tout à fait légitime. Mais justement, nous, on propose des rencontres chaleureuses. Et puis, je reviens là-dessus, j'insiste, c'est important pour les gens qui voudraient démarrer un collectif dans leur village ou dans leur ville, c'est de partir des choses positives, des associations qui existent déjà, et puis d'aborder les gens dans des événements festifs, dans les gens où tout le monde se retrouve. Vous savez, dans ces moments où tout le monde se moque des différences, quand il y a par exemple un petit concert, un bal populaire, sais-je encore, un concours de pétanque, n'importe. Et du coup, il y a la curiosité, mais il y a aussi énormément d'envie. Parce que même les gens qui se disent « Oh, on n'en peut plus, oh, c'est foutu, oh, on ne nous écoute jamais », justement, ils sont en souffrance. Et cette souffrance, c'est celle de l'impuissance. On n'en parle pas beaucoup, il y a la souffrance physique, la souffrance morale, mais il y a la souffrance liée à l'impuissance. Et le simple fait d'écouter les gens, déjà on soulage une partie de ces souffrances. Deuxième étape, on va montrer à ces gens que quand on va commencer à écrire le programme, ça sera là le nœud du problème. C'est que si les gens se disent « Waouh !» ils commencent à écrire le programme et qu'ils savent pertinemment que ce programme, ce sera celui-là qui sera appliqué, c'est ce qui s'est passé à Saillant. À la première réunion, les gens sont venus par curiosité. À la deuxième réunion, ils étaient deux fois plus nombreux parce qu'ils étaient venus. Ils étaient venus convaincus. Ils se sont dit, on est rentré à la mairie, on a écrit les programmes et c'est ceux-là qu'on a dans notre boîte aux lettres pour voter.
Et est-ce que justement, depuis un an, est-ce qu'en un an, vous avez passé à l'étape suivante de l'écriture des... commencer à écrire le programme ou pas ?
Les réunions sont programmées pour septembre 2019.
D'accord.
Nous avons calé 5 réunions, 4 ou 5, c'est pas encore définitif, dans un calendrier précis. Nous fonctionnerons par table, c'est-à-dire qu'on réunira les gens autour des tables suivant les commissions qui sont les compétences de la mairie.
Ouais.
Donc les dates sont calées, elles ont déjà été diffusées. On a d'autres dates que l'on calera, ce sera sur la gouvernance partagée, c'est-à-dire que comment on exercera le pouvoir, comment le pouvoir sera partagé, les habitants sont associés au pouvoir, puisqu'ils ont le pouvoir de décision sur une loi ou un projet municipal. Et puis aussi, les élus, c'est qui ?
Eh oui.
Nous, j'ai dit au début de l'interview, il n'y a pas de candidat. Bah oui, non, pour l'instant, dans notre collectif, personne ne s'est posé la question en disant « moi je veux être maire, moi je veux être adjoint, je ne sais pas ». Non, pour l'instant, nous, on est tous des animateurs et des médiateurs.
Oui, parce que ce qu'on voit souvent, ce qu'on entend souvent au niveau des choses municipales, mais aussi au niveau départemental, au niveau national, au niveau des partis politiques aussi, on voit la course aux places, en fait.
Oui. Et puis on retrouve toujours les mêmes, c'est-à-dire... Ce que m'a dit un animateur social, c'est le mâle blanc dominant. Donc, c'est l'homme de 40-50 ans, blanc, qui a fait des études, qui est habitué à parler. C'est un peu moi, quoi, par exemple. Mais voilà, si je prends l'exemple sur moi, je veux pas un fauteuil en cuir. Mmh. Je veux pas un cumul de positions, je veux pas de pouvoir. Mmh. Je veux pas décider pour les autres parce que j'en ai pas la capacité. Même si j'ai des bonnes idées, je peux pas avoir la prétention de dire que je suis un homme bienveillant qui d'un seul coup sait ce qu'il faut pour les autres.
Alors on va terminer cette deuxième partie en parlant un petit peu de qui sont ces gens qui viennent dans ce collectif. Moi la question que je me pose, est-ce qu'on va trouver des jeunes d'une vingtaine d'années jusqu'aux gens qui seraient retraités depuis 80 ans ou est-ce que c'est plutôt un profil très particulier au niveau des âges, au niveau du profil sociologique, ou est-ce que c'est tout le monde?
Là, on est de 16 à 80 pour l'instant. Mmh. Je pense à la plus jeune et à la plus âgée. Les membres sympathisants et actifs, pour l'instant, du collectif, si je peux dire ça comme ça, ils vont de 16 à 80 ans. Donc non, c'est vraiment tout le monde. Mmh. Et c'est aussi sans distinction sociale.
Oui, parce que vous avez des gens, peut-être des chômeurs, peut-être des gens qui sont très fortunés.
Bien sûr. C'est tout le monde, vraiment. Alors, bien évidemment, la personne de 80 ans sera la personne experte pour proposer tout ce qui concerne l'aménagement des services aux personnes âgées, par exemple.
Ouais.
La personne de 16 ans sera experte sur qu'est-ce que les jeunes veuillent. Mmh. Donc, vous voyez, ce sont toutes ces personnes qui vont écrire le programme.
Et
c'est pas moi qui peux savoir ce qu'il faut à une dame de 80 ans, et c'est pas moi qui peux savoir, même si je fais des efforts, exactement ce qu'il faut pour quelqu'un de 16 ans.
Alors au-delà de l'aspect purement entre guillemets politique, parce qu'on voit que c'est une autre forme de pratiquer la politique, on voit aussi que ce genre de réunion peut permettre ce qu'on appelle un grand mot aujourd'hui, la rencontre entre les jeunes et les moins jeunes, l'intergénérationnel tout simplement.
Bien
aussi
sûr.
Pour discuter des choses, pour apprendre aussi à se connaître.
Bah oui, parce que on prône le mieux vivre ensemble, mais le mieux vivre ensemble, c'est ça. C'est déjà avoir plaisir à se rencontrer, avoir plaisir à échanger, et puis ne pas se mettre de barrières.
Mmh.
Donc c'est vrai que des fois c'est difficile, mais en essayant, en proposant des réunions qui sont ouvertes et conviviales, c'est comme ça que ça accroche.
Mmh. Deuxième pause musicale, on va retrouver un artiste français, Dominique A, la chanson qui s'appelle La Poésie sur Fréquence.
Ah, j'adore, merci.
La poésie s'en est allée, je la soupçonne d'être passée par chez toi. De s'être allongée dans ton lit et d'avoir écouté la pluie sur le toit. Elle avait si peu à confier, pas du genre à trop s'épancher quelques mots. Qu'elle a laissé sur ton bureau quelques ratures au stylo, puis elle s'en est allée, puis elle s'en est allée. Il nous a fallu quelques jours pour être moins aveugle et sourd et trouver que l'air était un peu plus lourd, nos épaules un peu plus rentrées et pensées. Qu'après avoir tant annoncé, un départ mille fois reporté, elle avait ôté le manteau du crochet, où depuis des siècles il pendait, puis s'en était. Sommes-nous des enfants perdus, la forêt à perte de vue, ou le soir? refuse de nous abandonner, de laisser à l'obscurité tout pouvoir. Sur notre histoire mal engagée, la pleine lune est convoquée pour déjouer les pièges d'une nuit trop noire, aux abords d'un abattoir, sans un poème pour nous sauver, sans un poème pour nous sauver. Je ne sais pas pourquoi j'ai pensé qu'elle n'avait pas pu s'en aller sans passer par chez toi et sur ton bureau. J'ai vu les ratures au stylo, quelques mots qui se sont glissés sous ma peau, sur ton visage et sur tes mains. Ils ont pris rythme d'un cœur en sursis, et leur pouls était faible aussi, mais il faudrait s'y raccrocher, mais il faudrait s'y raccrocher.
Magnifique Dominique A sur Fréquencier, la poésie. On retrouve Jean-Marc Chamblay du collectif citoyen Agora de Saint-Gobain dans l'Aisne, toujours là ?
Toujours là.
Oui. Alors, on va reprendre un petit peu notre discussion. Si on a bien compris, dans les phases de mise en place de ce travail, de ce projet, donc ça commence, si j'ai bien compris, par une phase de sensibilisation des gens. On va rencontrer les gens, on va discuter avec eux. Ensuite, il y aura à partir du mois de septembre une rédaction, une ébauche de rédaction d'un programme. Et la question qu'on n'a pas posée, c'est les élus dans tout ça, enfin les représentants de cette liste, comment seront-ils désignés, sur quels critères? Est-ce que c'est du est-ce que c'est celui qui va parler le plus fort, par exemple, qui va prendre la place?
Alors non, bien sûr, c'est pas celui qui va parler le plus fort, parce que celui-là il sera écarté bien évidemment avec politesse. Non, les élus seront choisis au dernier moment parmi les habitants.
Ouais.
Mon système que l'on appelle l'élection sans candidat, donc je vous renvoie sur l'université du Nord, c'est un système d'élection qui fait que on choisit les candidats sur proposition des gens.
Ouais.
Donc, il n'y a pas de pour et de contre. C'est que tout le monde est d'accord ou personne n'est contre. Donc c'est consentement ou consensus.
En fait. D'accord.
Et déjà, il y a
Le son devient très très mauvais là.
Pardon, je vais peut-être viser un petit peu. Il disait pour nous, il nous faut 13 candidats pour notre liste.
13 candidats.
Voilà. Donc, si on a 100 habitants qui sont au moment où on va choisir les 13 candidats, on va commencer avec ces 100 habitants à dire quelles sont les qualités requises d'un candidat et qu'est-ce qu'il a à faire.
Ouais.
Une fois qu'on a listé tout ça, on fait des propositions. Donc, Madame Machin peut dire, ah ben moi, je trouve que Monsieur Truc, il a cette qualité, il pourrait, par exemple, bien être attentif. On a confiance en lui, c'est quelqu'un d'avenant, il pourrait être sur la liste. Et on fait plusieurs tours comme ça, et les candidats se désignent comme ça. Il peut y avoir des gens qui disent « Ah bah moi, je serais prêt éventuellement à m'investir en tant qu'élu. » Il y a aussi les personnes qui vont être les animateurs des réunions.
Ouais.
Là, c'est très important. Les animateurs des réunions ne sont pas les élus, parce que c'est eux qui organisent les réunions d'écriture de programme, donc leur rôle, c'est simplement d'être animateurs, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas d'avis, et même s'ils ont des idées, ils ne doivent pas en parler. C'est surtout les idées des autres qui doivent faire remonter. Et ils sont donc indépendants des élus.
Ouais.
C'est sûr que si un élu anime une réunion, on est certain que le programme qui sera écrit sera transformé par l'élu. Alors que les animateurs travaillent pour les élus et les habitants, mais ne véhiculent pas les idées des élus.
Alors,
c'est vraiment des habitants qui prennent le devant.
Donc ça veut dire aussi que les personnes qui se présentent se présentent par rapport à un programme. La question moi, qui me vient ensuite, c'est qu'est-ce qui se passe si cette liste est élue ? Qu'est-ce qui se passe dans le cas où les élus ne mettent pas en place ce qui a été décidé ?
Alors ça, c'est ce que nous réglerons dans nos réunions avec les habitants aussi de gouvernance partagée, c'est-à-dire qu'on aura une charte du comportement des élus.
D'accord.
C'est-à-dire que si un élu ne respecte pas son mandat, ben il s'en va.
D'accord.
Il y a plein d'options possibles. Je reviens sur l'exemple de Staillon. Par exemple, eux, c'était 11 élus ou 12 élus, je crois, qu'ils avaient. Le maire, c'est un veilleur de nuit qui s'est mis à mi, qui a été choisi, alors qu'il il avait dit « ouais, je veux bien au cas où », mais il n'avait pas de provocation d'être maire, il a été choisi par les habitants.
Ouais.
Et les habitants ont décidé que tous les élus auraient les mêmes appointements, auraient les mêmes indemnités.
D'accord.
Sauf le maire un petit peu plus, parce que comme il s'est mis à mi-temps, ils ont rattrapé sa perte de salaire. Parce qu'on a, sur Staillon, ils ont décidé que tous les élus avaient la même importance. Donc il n'y en a pas un qui est premier adjoint et l'autre dernier adjoint qui ne sert à rien. Donc c'est tout le monde au travail pour le même projet.
Alors la question qui me vient aussi, parce que vous êtes une commune de 2500 habitants, forcément ce qui se met en place commence à être depuis un an, commence à être connu des habitants et puis des élus et puis d'autres personnes de la vie peut-être politique locale. D'abord, comment cette initiative est perçue ou a été perçue par les habitants au départ ?
Alors tout au départ c'était la curiosité, bien évidemment. On est passé un petit peu aussi sur le côté « oh ça y est, c'est encore des farfelus ». Parce que les gens sont tellement habitués à ce qu'on ne leur demande plus la parole que quand quelqu'un vient leur dire bah si ta parole est d'or, ça les surprend un peu. Mais on a vu tout de suite qu'il y avait tellement de besoins et tellement de demandes que finalement ça prend tout seul. L'envie est vraiment l'envie se fait ressentir partout où je vais, hein, pas seulement dans nos communes, ça peut être aussi bien dans la grande ville d'Amiens où je vais souvent, ou dans les petits villages environnants, l'envie des gens est de reprendre un peu une posture plus encourageante dans le fait du pouvoir de décision.
Ouais. Il y a toujours quand même cette idée en fond de ce que je disais tout à l'heure au début de cette émission, cette idée de que l'élection municipale était quand même une des plus grandes élections, une des élections les plus attendues en France.
Bien sûr, parce que c'est des choses qui se voient directement. Si un maire décide de faire, par exemple, des travaux sur un rond-point plutôt que des travaux sur l'école, ça touche directement tout de suite les habitants. C'est du vécu. Et dans notre système, ce qui plaît beaucoup aux gens, justement, c'est quand on leur dit « Toi, tu habites dans ce quartier-là, dans cette rue-là, donc les problèmes de cette rue-là, c'est toi qui les connais, c'est pas moi, je suis à la mairie, par exemple. » Donc là, du coup, les gens se disent « Ah, on leur a jamais proposé un truc comme ça. »
Alors, autre catégorie d'habitants qu'on va trouver dans une commune, forcément, il y a des élus, et puis il y a peut-être aussi des partis politiques ou des gens qui représentent des syndicats ou autres. Comment c'est cette catégorie d'habitants d'une ville, des catégories qui ont aussi leur place dans une ville, de toute façon, dans une commune, qui ont aussi le droit à la parole, comment réagissent-ils à ce collectif, à cette création de collectif ?
Alors, il y a plusieurs réactions. Après, tout dépend des caractères des personnes. Il y a ceux qui sont pas contents du tout, parce qu'ils sont en place, ils voient déjà plus haut, le conseil départemental, le conseil régional, peut-être les sénatoriales. Donc c'est sûr que ces gens-là, ça, on n'a pas vraiment, à leurs yeux, un intérêt très, très, très important. Par contre, pour tous les autres, on a l'intérêt, de la curiosité, et même de l'envie. Ensuite, il faut préciser que même un élu d'opposition dans notre système aura le droit à la parole,
ouais,
comme tout à chacun.
Alors, la chose quand même, c'est intéressante, que je voudrais savoir, est-ce qu'il y a des élus au sein du conseil municipal qui ont été, qui ont participé à ces réunions que vous avez proposées ?
Alors, sur des élus de notre commune, non, ils sont venus voir en curieux. En surveillant, on va dire. Par contre, on a des élus, des anciens élus, dégoûtés du système actuel, qui sont venus et qui vont revenir dans leur commune avoisinante pour leur dire, bah oui, finalement, une mairie, ça fonctionne mieux quand les habitants prennent les décisions avec... prennent les décisions.
Alors,
il y a des anciens élus qui ont... En plus, on est quand même sur un climat où on voit beaucoup que les maires sont de plus en plus perdus.
Oui, puis
on a des maires qui démissionnent, on a des maires qui n'en peuvent plus, qui ne savent plus comment s'en sortir. Et on est justement dans le climat où peut-être même que c'est aider les futurs maires que de dire bah, c'est les habitants qui vont faire ton travail parce que c'est eux qui vont te dire ce qu'il faut que tu fasses.
Alors, pour rappeler un petit peu, est-ce qu'il y a une couleur politique dans une commune de 2500 habitants ou c'est plutôt une liste, on dirait, qui rejoint une liste communale, comme il y en a beaucoup dans les petites villes ?
Oui, on est apolitique. Ça n'empêche pas que les membres peuvent avoir des cartes politiques dans leur sac.
Oui, oui, oui.
De tous bords, et je dis bien de tous bords. Par contre, bien évidemment... les gens ne vont pas fonctionner comme dans leur parti politique. Il n'y a pas de chef qui décide pour les autres. Il n'y a pas de programme écrit par des pontes ou des experts. Non. Donc, et en plus, j'ai envie de dire, on s'en fout. Parce que si, par exemple, je vais prendre un exemple très fort. On va prendre un gars qui vote extrême gauche et un gars qui vote extrême droite. D'accord. Donc ces deux personnes, si on les met dans une salle en disant faut écrire un programme, on peut s'imaginer que ça va être difficile. Mais si on dit, bah oui, mais on va écrire un programme sur, par exemple, l'assainissement de l'eau ou la cantine scolaire, bah, ça intéresse tout le monde.
Ce sont des choses concrètes qui touchent la vie des gens.
Ouais. Donc, c'est même éclairant. Par exemple, pour citer Tristan de Saillant, il dit qu'il peut travailler avec des gens du Front National, qu'il n'aime pas, parce qu'il pense que le Front National, c'est la partie sombre de l'humanité, mais que le fait de travailler avec des gens qui sont dans la pénombre, sur, par exemple, l'eau, la cantine scolaire, ou même le ramassage des crottes de chiens, bah, c'est amener les gens vers la lumière. Oui, puisque c'est apprendre à décider ensemble malgré les différences. Les différences d'opinion, les différences de couleur, les différences d'ordre social, et ainsi de suite.
Donc c'est aussi ce collectif, c'est aussi peut-être un moyen d'apprendre à vivre ensemble aussi.
Au-delà
du but électoral, c'est peut-être aussi se rencontrer, de voir nos différences qui sont peut-être...
Voilà.
Qu'il peut y avoir des différences, mais il peut y avoir aussi des choses sur lesquelles on peut se retrouver.
Tout à fait. Et il faut revenir à l'essentiel. Le mot politique, dans son sens primal, c'est l'art de vivre ensemble dans la cité. C'est vrai que quand on entend le mot politique, vu ce qu'on voit depuis des années, tout de suite, ça fait gros mot. Mais non, c'est un mot noble, la politique, c'est le vivre ensemble, et le bien vivre ensemble. Donc on est vraiment dans le cœur du sujet. Mais c'est pas les partis politiques, on est vraiment dans une autre façon de penser.
Ouais. Alors, pour conclure, parce qu'on arrive à la fin de cette émission, est-ce qu'il y a d'autres exemples en France que tu pourrais donner ? Donc il y a l'exemple de Saillant dans la Drôme, mais peut-être qu'il y a d'autres collectifs qui existent en France, sans en faire la liste. Alors, combien à peu près ? Est-ce que ça touche les grandes villes, les petites villes, les villages ?
Ouais. Alors, on est à peu près plus de 100 listes en France. Il y a des quartiers à Paris, il y a la ville de Grenoble, il y a la ville d'Amiens, il y a des très grandes villes, Brest, de mémoire, je crois. Lille, ils y pensent. Il y a des petits villages aussi. Sur Internet, vous avez une plateforme nationale des listes participatives 2020. Donc, si vous tapez PNLP 2020, vous avez une page Facebook. Actuellement, vous avez... Des personnes qui relient tous les collectifs. Il y a une carte interactive qui est visible sur cette plateforme où vous voyez les petits points qui apparaissent partout en France et en dom-tom, et puis même aussi dans d'autres pays d'Europe. Et puis, il y a un site en création, un site d'outils ressources, d'articles, d'outils pour l'information des gens qui est en construction aussi, qui s'appelle Nos Communes. Et donc, les gens qui ne savent pas pourront aller chercher des informations sur cette plateforme.
Est-ce qu'il y a des ouvrages un peu théoriques ou généraux qui présentent un petit peu cette démarche aujourd'hui ?
Ils sont en ligne sur cette plateforme. En fait. Alors les ouvrages sur la démocratie participative, il y en a beaucoup, oui. Je ne peux pas en donner un plus que d'autres, mais... Et puis ils sont en train de s'écrire, surtout.
Oui, parce que c'est un courant qui est assez, qui est assez
alors,
nouveau, en tout cas en France.
Bien évidemment, on prend les exemples. Alors, par exemple, il y avait les Voix de la démocratie. C'est un couple de jeunes qui a fait un tour en Europe et qui est allé voir les initiatives citoyennes qu'il y avait partout en Europe. Et toutes ces informations sont centralisées, et c'est ça qui a fait naître cette envie de démocratie participative, parce qu'il y a des tas d'exemples où ça marche. Mmh. Le système qu'on propose, il peut marcher dans une petite association, comme dans une entreprise, comme dans une commune. Mmh. C'est-à-dire que le système, il marche pour comment on régit les problèmes au sein d'une entreprise. Est-ce que le salarié a autant de droits de parole que le patron? C'est la même chose que dans un village. J'ai même des amis qui s'amusent à utiliser les outils de l'intelligence collective et des décisions comme ça communes dans le cercle familial.
Ah oui.
Entre parents et enfants. C'est vraiment une méthode pour réussir à trouver des idées ensemble et à s'entendre sans
se taper dessus.
En intelligence, voilà. C'est aussi beaucoup ce que l'on fait dans notre collectif. Les animateurs du collectif, on a deux missions. On a présenté et aidé les habitants à écrire le programme ici pour notre future liste. Et puis on a aussi l'idée d'essaimer, d'aller voir dans les communes à côté,
oui,
pour aller former, expliquer aux citoyens qui voudraient le faire comment nous on a fait et quels sont les outils qui permettent d'aider des collectifs naissants à mener un projet comme ça.
En tout cas, Jean-Marc Chamblay, on arrive à la fin de l'émission. En tout cas, merci justement pour ce témoignage, puisque c'est témoignage d'une action locale. Comment le citoyen peut réinvestir sa cité, tout simplement, sa vie locale, son territoire, son lieu de vie. Voilà, donc c'était Jean-Marc Chamblay du collectif Agora Citoyen sur Fréquence IE, collectif citoyen de Saint-Gobain dans l'Aisne. En tout cas, je te remercie. À bientôt.
Merci beaucoup, à bientôt.